Ce matin, comme Greg le disait, on est une église, on est une famille, et donc il y a parfois des choses à se dire dans une famille, et donc c'est important de bien écouter ce que Dieu nous met à cœur. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet en particulier. Je vais vous demander, sans intervenir à voix haute, mais simplement en faisant signe de la main, comme devant une classe, qui parmi vous, donc sans jugement ou autre, hein, simplement, qui parmi vous pratique le jeûne régulièrement? Je vois quelques mains se lever et j'en vois pas beaucoup. C'est un point qui m'étonne un petit peu aussi, parce que c'est vrai que dans notre église, on pratique beaucoup de choses. Mais est-ce que ces dernières années, on a organisé ou institué un jeûne d'église, par exemple, un temps qu'on prend à part et qu'on mettrait pour le Seigneur à jeûner? Alors, avant d'en arriver là, peut-être que ce serait bien déjà d'en parler. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un message sur le sujet. Je sais que Pascal aussi a prévu d'en parler prochainement dans un article. Et je pense que si c'est nécessaire aussi, ça pourrait être l'objet d'un deuxième, voire d'un troisième message, s'il y a beaucoup de choses à développer dessus. Si on regarde aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de rechercher un peu sur Internet des choses sur le jeûne. Juste des mots comme pourquoi jeûner ou qu'est-ce que le jeûne. Et vous savez ce qu'on trouve? On trouve beaucoup de nutritionnistes, beaucoup de véganes, beaucoup de personnes un petit peu dans les nouvelles mouvances de l'alimentation saine et que on va vous encourager à jeûner pour perdre du poids ou pour maintenir ou pour le bien-être de votre corps. Il y a même, j'en prends pour ma femme dans un magasin bio, il y a des tisanes pour le jeûne. Il y a des produits spécifiques qui sont conçus pour ça. Dans les autres recherches que j'ai faites, je suis tombé aussi beaucoup sur le Ramadan, sur les musulmans, qui jeûnent aussi, eux, de façon très régulière et très sérieuse. C'est très légalisé. Il y a un ensemble de règles, de jours, de spécialistes sur le sujet, et donc tous les musulmans vont le faire de façon systématique. Et nous, chrétiens, on est où là-dedans? Est-ce que le jeûne, c'est une pratique dépassée de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est une pratique qui n'intervient que dans certaines situations très précises? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose de personnel et d'individuel? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait aussi instituer en tant qu'Église? En tant qu'Église, on a des saintes cènes, en tant qu'Église, on a le lavement des pieds, en tant qu'Église, on a des réunions, on a de la prière, on a de la louange. Est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose? L'idée ce matin, c'est de lire des textes sur le sujet, donc je ne vais pas forcément lire à partir d'un seul texte, puisque la Bible en parle à de nombreux endroits, mais je vais prendre plusieurs passages que je vous invite aussi à lire peut-être dans leur ensemble, parce que je vais m'attarder que sur quelques versets. Pour ceux qui voudraient faire une lecture plus complète, une analyse plus complète sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que jeûner? Pourquoi on le fait? À quoi cela sert-il? Est-ce que nous sommes amenés à changer notre pratique par rapport à ça? Dans Ésaïe 58, qui est un passage qui est souvent cité, je vous lis les versets à partir du verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. On se rend compte que le jeûne qui pouvait être pratiqué, du coup, n'était pas un jeûne qui plaisait à l'Éternel. Notamment parce que ces gens jeûnent et à côté, continuent de se livrer à leurs mauvais penchants. Ce serait un peu comme si je passais la journée à battre ma femme et que le soir, je prends ma Bible, je la lis, puis je prie, je passe un moment de qualité avec le Seigneur. Il y a un non-sens évident dans cette pratique. C'est un peu aussi comme ce qu'on a reproché à Jésus quand on lui disait « Mais tu guéris un jour de sabbat ?» Est-ce que, au final, pratiquer le bien le jour du sabbat, ce n'est pas la meilleure façon d'honorer Dieu? Mais bien souvent, on va mettre en avant ce qui nous plaît. Et notamment, les pharisiens mettaient en avant l'observance de la loi sans forcément qu'il y ait un sens derrière ou sans forcément respecter pourquoi Dieu avait placé ces choses-là. On voit dans Luc qu'il y a un pharisien et un publicain qui prient notamment, et on a la prière du pharisien dans Luc 18 qui dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Et on voit ce à quoi s'attache ce pharisien, ce côté un peu légaliste, c'est « Je donne ma dîme, je jeûne deux fois la semaine. Je ne suis pas comme les autres hommes. Je leur suis certainement supérieur et je suis meilleur qu'eux. » C'est pas le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et du coup, parfois, on transforme le passage d'Ésaïe 58 en disant « Dieu veut pas qu'on jeûne, Dieu veut qu'on fasse du bien à notre prochain. » Dieu ne veut pas de ce genre de jeûne et Dieu dit bien « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, c'est que tu partages ton pain, c'est que tu accueilles celui qui est sans abri, etc. » Et du coup, on a parfois l'habitude de remplacer le jeûne par ça en se disant « Je dois pratiquer le bien. » Mais est-ce que c'est ce que nous dit la Bible? Et évidemment, comme le disait Greg tout à l'heure, on est une église qui est à la tête. À la tête, c'est Christ. Est-ce que Christ parle du jeûne? Est-ce qu'il nous encourage à jeûner? On lui avait fait ce reproche justement dans Matthieu 9. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Si Jésus parle du futur en disant « alors ils jeûneront », c'est que ses disciples auront à le faire. On n'est pas sur une pratique d'Ancien Testament qui, à de nombreuses reprises, est pratiquée dans l'Ancien Testament, je vais y revenir après d'ailleurs, mais Jésus en parle en disant que là, ce n'est pas le moment. Là, ce n'est pas pour eux le temps que j'ai prévu pour leurs jeûnes. Là, c'est le temps où je suis avec eux, le temps où je les forme, le temps où j'annonce des choses, et derrière, mes disciples, quand moi je ne serai plus là, ils vont jeûner. Notamment, Jésus parle aussi du jeûne en disant, dans Matthieu 6, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et on trouve un peu la même idée que le pharisien qui priait au coin des rues, et où Dieu nous invite pas forcément à prier à voix haute devant tous pour être vu des autres, mais la prière, c'est aussi quelque chose qu'on doit faire dans l'intimité avec notre Père. Et au final, ce passage qui dit « lorsque vous jeûnez » ressemble aussi étrangement à l'éducation, à la prière que Jésus nous donne aussi en disant « lorsque vous priez, faites ainsi ». Et on se rend compte qu'il y a un parallèle entre le jeûne et la prière dans ce passage et dans d'autres justement où Jésus parle de la prière. Le fait d'entrer dans ta chambre, dans le lieu secret, de faire ces choses-là devant ton Père. Donc il y a un jeûne qui est personnel, tout comme il y a des prières qui sont personnelles. Il y a des choses que je ne vais pas prier devant les hommes qui sont de mon intimité avec mon Père qui est dans le ciel. Mais du coup, est-ce que, comme on reprend quand les disciples de Jean viennent le voir, Jésus dit « c'est pas leur temps pour s'affliger ». Est-ce que jeûner, c'est s'affliger ? Est-ce que du coup, ça va pas en contre-indication avec « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, soyez toujours joyeux », tous ces passages où on met en avant la joie ? Est-ce que le jeûne, c'est pas un temps plutôt de tristesse ? Alors regardons un petit peu pourquoi dans la Bible des gens se sont mis à jeûner. Alors je ne vais pas vous reprendre toutes les différentes personnes qui ont jeûné parce que si vous lisez l'Ancien Testament, il y en a un paquet. Moïse a jeûné, Esther a jeûné, Daniel a jeûné, Jonas a jeûné, enfin Jonas, les gens de Ninive ont jeûné, des tas de gens ont jeûné. Et justement, les gens de Ninive, ils ont publié un jeûne, ils sont revêtus de sacres, ils sont mis depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, parce qu'ils avaient péché. Et donc, c'était une façon aussi de comme prendre le sac et la cendre, de s'humilier, d'arriver avec humilité, de se présenter avec humilité devant Dieu, parce qu'ils reconnaissaient leurs fautes et leurs transgressions. Et ça, on en a plusieurs dans la Bible. Daniel aussi, quand il lit dans les livres, dans Daniel 9, qu'il doit s'écouler 70 ans avant que les ruines de Jérusalem soient relevées, il a pris le sac et la cendre, il a jeûné, il a prié Dieu en disant « mais on a péché ». C'est pas lui, Daniel, qui avait péché, mais il a lu dans les livres, il a vu ce que Dieu avait annoncé, il a vu tout ce qui était prévu. C'est comme Jérémie qui voyait ce que Dieu annonçait et qui, au final, s'humiliait devant Dieu et demandait et intercédait pour le peuple. On a ces jeunes-là qui sont souvent des jeunes qui sont des jeunes de repentance. On est pécheur, on a attristé Dieu, on le reconnaît, on vient se placer devant lui, on vient courber la tête et on vient demander pardon. Comme le fils prodigue qui revient vers son père. Il revient pas triomphant, il revient pas en courant, en levant les bras, en se faisant acclamer, en disant « ça y est, je suis là, c'est moi ». Il revient en courbant la tête et en disant « je suis pas digne d'être ton fils, prends-moi comme serviteur ». On a ce jeûne-là dans la Bible. Mais si le jeûne est uniquement lié à la repentance, pourquoi Jésus jeûne-t-il 40 jours avant de démarrer son ministère? Si c'est uniquement un acte de contrition, d'affliction et de repentance, pourquoi notre Seigneur le fait-il? Si on est là ce matin, si on est réunis, c'est aussi parce qu'on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On croit qu'il est parfait. Et si on croit qu'il est parfait, on croit qu'il n'a pas besoin de repentance. Quand on lit aussi, par exemple, pour l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, quand il rencontre Jésus qui se révèle à lui, on voit que Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Parfois, on a tendance à dire que Saul persécutait les chrétiens. Du coup, ce temps où il ne va pas manger, il ne va pas boire, ce temps de jeûne, est-ce que ce n'est pas un temps de repentance, comme les habitants de Ninive? Et moi, je pense qu'on peut le voir aussi autrement. On peut le voir aussi comme un temps de préparation. Comme ce qu'a fait Jésus avant d'entamer son ministère, de se mettre à l'écart 40 jours et de jeûner, eh bien, Paul va prendre ce temps, il va se mettre à l'écart, va réfléchir un peu à tout ce qu'il a fait et réfléchir aussi à ce nouvel appel qu'il reçoit de Dieu. Avant d'entamer un service, avant de préparer une tâche à venir, c'est important de prendre des temps de prière, évidemment, et c'est important aussi, on passe peut-être à côté, de prendre des temps de jeûne. L'un ne va pas sans l'autre, forcément. Si on regarde toujours dans le Nouveau Testament, dans Actes, on voit pour les nominations des anciens, dans Actes 14, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Le jeûne va de pair avec la prière à ce moment-là. Dans Actes 13 aussi, tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Séparez-moi Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Dans Actes, on voit les premiers chrétiens au moment justement d'envoyer des personnes pour le service, au moment de nommer des anciens, au moment de mettre des personnes à part pour aller servir Dieu, on les voit prier, mais on les voit aussi jeûner. Est-ce que nous, dans notre église, pour nos nominations d'anciens, est-ce que nous, dans notre église, pour nous préparer au service, est-ce qu'on prie? Bien sûr. Est-ce qu'on prie dans nos assemblées générales? Aussi. Mais est-ce qu'on prend parfois ces moments de jeûne? Je dis ça sans être là en père moralisateur et en dispenseur de reproches, je m'inclus également dans tout cela. Et si je suis là aussi pour en parler ce matin, c'est que ça me tient à cœur et je me dis peut-être qu'on passe à côté de certaines choses. On voit que le jeûne est souvent associé à la prière, que ce soit pour la repentance, que ce soit pour la préparation à un service ou la mise à part de certaines personnes pour l'œuvre du Seigneur. Mais on voit aussi dans Matthieu 17, dans les versets 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dire en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire quoi, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne? On associe souvent la prière à une puissance. La prière permet d'accomplir les choses merveilleuses. Et cette relation qu'on a avec notre Père va de pair, comme on voit dans ce passage, avec la foi, qui permet aussi d'accomplir les choses merveilleuses. Mais si la prière est une puissance, on voit aussi que ces démons-là ne sortent que par la prière et par le jeûne. Le jeûne est également une puissance. Le jeûne est également un moyen que nous donne Dieu pour accomplir des choses. Mais qu'est-ce que c'est que jeûner? Est-ce que c'est juste, je saute un repas et j'ai jeûné et hop, je me sens plus fort et plus puissant? Est-ce que jeûner, c'est comme les musulmans, une pratique qui arrive à un certain temps et c'est juste pendant une certaine partie de la journée? Est-ce qu'on a un passage biblique qui nous dit, quand tu jeûnes, bah, c'est de 7h le matin à 19h le soir? Les musulmans, ils ont des passages comme ça, qui leur dit que voilà, c'est à partir de la nuit, dès que le jour se lève, etc. Il y a des spécialistes qui vont même donner des heures, il y a des sites sur Internet qui vont vous donner des heures précises de voilà l'heure à laquelle tu t'arrêtes, l'heure à laquelle tu peux manger. Et nous, qu'est-ce que nous avons là-dessus? Nous avons des exemples bibliques. Tout comme pour la prière, Jésus nous a laissé le Notre Père comme exemple. Il nous a dit aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des exemples que le jeûne, c'était pas juste pour venir se montrer mortifié devant les hommes et venir se faire plaindre, entre guillemets, ou bien venir dire, ça fait 10 jours que je jeûne et applaudissez-moi quand même, c'est pas rien. Ça, on le retrouve par exemple chez les Indiens. Les brahmanes, la caste des brahmanes, souvent pratiquent des jeûnes ou pratiquent des privations extraordinaires et les gens viennent là et les adorent et les révèrent comme des dieux. Ils viennent leur apporter des offrandes parce que c'est des personnes qui sont capables de faire des choses que eux ne sont pas capables de faire. Les musulmans vont mettre en avant leurs jeûnes comme des bonnes œuvres et vont en attendre quelque chose de la part de Dieu. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Est-ce qu'il y a un manuel pratique du jeûne dans la Bible? Comme pour la prière, on a des modèles, on a des exemples, on a des exhortations à la prière dans la Bible. Et on a aussi des exhortations au jeûne. Si moi je vois les premiers chrétiens qui dans Actes, avant de nommer un ancien, ils s'arrêtent et ils prient et ils jeûnent, je me dis pourquoi nous on ne le fait pas? Ici, est-ce que c'est un acte personnel? Est-ce que c'est un acte qu'on devrait faire en tant que groupe, en tant qu'église? Si on regarde dans d'autres passages, dans Néhémie par exemple, Néhémie, il y a les enfants d'Israël qui s'assemblent et qui font la célébration d'un jeûne. Ou bien dans Joël, on voit publier un jeûne, une convocation solennelle. Et c'est un appel à assembler tout le monde et à publier un jeûne collectif. Alors, c'était des situations précises et particulières, mais est-ce que nous aussi, dans notre vie d'église, il n'y a pas des moments où on vit des situations précises et particulières? Il ne s'agit pas d'instituer ça comme le faisaient les pharisiens en disant « on va le faire 2 fois la semaine, voilà, c'est tel jour et tel jour, c'est tel repas qu'on va sauter ». Il s'agit simplement, dans certaines situations, que ce soit une situation, comme on disait tout à l'heure, de repentance, par exemple, pour venir se présenter humblement devant Dieu, une situation d'intercession, que ce soit pour chasser des démons ou pour guérir des malades, une situation de préparation au service, est-ce qu'on ne devrait pas collectivement faire des choses? Ici, quand on lit tous ces différents passages, on va rencontrer des personnes qui vont le faire seules, dans un contexte précis. Et on va rencontrer aussi des personnes qui vont le faire en groupe. Mais est-ce que c'est à moi de venir dire « voilà, publions un jeûne » À qui est-ce? On est dans une église où on n'a pas de pasteur. On n'a pas un berger qui nous guide, nous, le troupeau. Mais on est dans une église aussi où on a Christ qui est à la tête, comme Grégory encore le disait tout à l'heure. Et nous, On est censé suivre ce qui est dit. Est-ce que on est bien dans l'obéissance en ne pratiquant pas de jeûne en tant qu'Église? Encore une fois, je ne viens pas ce matin pour dire « Vous faites mal, écoutez la bonne parole que je vous apporte. » Mais je viens en me disant « Est-ce que nous ne passons pas à côté de certaines choses ?» Depuis que je suis dans cette Église, je remercie le Seigneur et il y a eu des tas de choses très enrichissantes. Les messages m'apportent, me reprennent aussi, et c'est important. Les louanges glorifient Dieu. On ouvre la parole, on peut discuter, on peut débattre, on fait des tas de choses en tant qu'Église. Mais est-ce que nous jeûnons? Est-ce que nous prions ensemble? Oui, à certains moments le dimanche ou à d'autres moments quand Dieu nous donne la chance d'être réunis. Hier, j'ai Ethan qui passait à la maison pour diverses choses et on a pris un temps aussi où on a prié. Et ces moments-là sont rares parce qu'actuellement, on se voit pas tous les jours. Et quand on se voit, c'est important de pouvoir en profiter de la bonne façon. Et là, on est encore à distance, on peut prier ensemble à distance comme on l'a fait tout à l'heure pendant le culte. Mais est-ce que nous pratiquons ensemble d'autres choses? Alors, la Sainte Cène, on peut la faire à distance aussi. Le lavement des pieds, c'est un peu plus compliqué à distance, mais chacun peut laver les pieds de ceux qui sont chez eux. Mais le jeûne, est-ce qu'on pourrait pas le pratiquer aussi à distance? Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Est-ce que c'est juste, je m'abstiens de manger et j'en suis fier? Ou est-ce que, comme disait Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement? Il s'agit peut-être de se vider un peu le corps pour se remplir un peu l'esprit. Comme on le lit dans plein d'endroits, on nous oppose souvent la chair et l'esprit dans le Nouveau Testament. Il s'agit parfois de laisser un petit peu les plaisirs de la chair et du corps pour se concentrer un peu sur les plaisirs de l'esprit. Le jeûne, c'est pas juste « je m'abstiens de manger ou de boire », mais ça peut être aussi « je m'abstiens d'allumer ma télévision et de suivre les informations et je prends un temps à part où je vais peut-être pas me laisser abreuver par tout ce que le monde me dit. Je m'abstiens d'être, et ça, je me le dis à moi le premier, d'être sur mon téléphone portable à consulter tout ce qui se passe ailleurs et à pas forcément vivre ce que je suis en train de vivre ici en ce moment. Je m'abstiens peut-être d'autres choses, d'autres pratiques, d'autres plaisirs personnels et je prends un temps à part que je consacre à Dieu. Je prends un temps à part que je consacre pas juste à ne pas manger, mais à lire la parole, à prier, à louer, à réfléchir. Et je pense que ces temps-là, Jésus nous a montré qu'il les prenait, il a su aussi être parmi des foules, mais il a su aussi se mettre à l'écart à certains moments pour prier. Il avait des moments où il avait besoin d'intimité avec son Père, et on a besoin aussi d'intimité avec notre Père. Et donc tous individuellement, sans, comme disait Matthieu tout à l'heure, le dire, je vais pas arriver devant vous en disant, moi, ça fait 3 jours que je jeûne, regardez, etc. On a des moments où, comme on le disait tout à l'heure dans Matthieu, où on doit faire ces choses-là dans le secret, dans l'intimité de notre cœur avec notre Père, pour les raisons que le Saint-Esprit va nous pousser à le faire aussi. Mais également, comme dans Actes, comme dans les premiers temps de l'Église, comme dans Esdras, comme dans Néhémie, on a des jeunes qui sont collectifs, des jeunes où on se rassemble et où ensemble on prie et on intercède. Au final, je ne pense pas que nous fassions mal. Je ne pense pas qu'on ait des obligations légales, parce que je ne pense pas que la Bible soit un livre de loi. Mais je pense que la Bible est un livre qui est plein de vie, plein de bénédictions. Et que bien souvent, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres, on se prive de certaines bénédictions. On s'en prive parce que on va attacher notre cœur à d'autres choses qu'au service de Dieu. On s'en prive nous-mêmes parce que, tel le fils prodigue, on veut aller profiter de la vie parfois et, ce faisant, on s'éloigne forcément un peu de Dieu. On s'en prive parce que on va souvent choisir le péché. Comme disait l'apôtre Paul, je fais le mal que je ne veux pas et je ne pratique pas le bien que je veux faire. Mais quand on a l'occasion de se réunir et de louer ensemble, de prier ensemble, c'est des occasions de bénédiction. Et je pense qu'on est dans un temps aussi où on est à distance, où notre pays a besoin d'intercession. Et en tant qu'Église, on se doit aussi d'intercéder pour notre pays. Mais en tant qu'Église, on se doit d'intercéder aussi pour notre Église. Parce qu'on est dans un temps aussi de nouveaux locaux, de projets d'Église, des tas de choses encore qui viennent. On est dans un temps où on a besoin aussi parfois de s'arrêter et de prendre un temps de prière et un temps aussi, je pense, de jeûne. Dans Esdras 8, Esdras dit que je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. L'occasion qu'Esdras saisit, c'est « j'aurais pu demander une escorte, j'ai pas voulu le faire et j'ai voulu dire et j'ai voulu témoigner. Nous n'avons pas besoin d'escorte, nous avons Dieu avec nous. » Et ils ont jeûné ensemble, prié ensemble avant d'entamer un nouveau voyage, et Dieu les a exaucés. Est-ce que nous, on n'est pas à l'aube d'entamer un nouveau voyage dans un nouveau quartier, avec peut-être une nouvelle organisation d'église, de nouveaux projets, peut-être des nouvelles nominations, peut-être de nouvelles personnes qui vont venir assister? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où, comme Esdras et comme le peuple qui l'accompagnait à ce moment-là, on ne devrait pas demander, non pas aux hommes, comme Esdras n'a pas voulu le faire, mais demander à Dieu de nous accompagner, de nous protéger durant ce nouveau voyage. On pourrait faire les plus beaux locaux du monde, on pourrait faire la plus belle publicité partout. On sait très bien que si on sème sans Dieu, rien ne va pousser. C'est ce qui est dit dans un des cantiques de Salomon, dans un psaume, le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et évidemment, il ne s'agit pas de faire les choses par nos propres forces. Il s'agit simplement de s'arrêter un temps et de se dire, voilà ce qui est devant nous. Voilà ce que nous souhaitons. Voilà ce que nous pouvons. Mais nous voulons remettre à Dieu la direction. Nous voulons nous arrêter un temps, prier un temps, jeûner et nous placer devant toi. Alors je sais que du coup, c'est peut-être un message qui peut gêner. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne me dérange pas, moi, de gêner les gens. L'idée n'est pas de venir taper sur les autres en disant « Ah, vous jeûnez pas, c'est mal. » Ou « Vous priez pas, ou vous lisez pas assez votre Bible. » La Bible est très claire là-dessus, et j'aime beaucoup ça. On n'est pas des pharisiens et on n'a pas une quantité à faire. On n'a pas un quota, on n'a pas de règles, on n'a pas à se dire tous les lundis c'est comme ça, tous les mardis c'est ça, tous les mercredis c'est ça, etc. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie de routine. Mais posez-vous la question, est-ce que vous priez le matin parce que c'est le matin et que vous devez prier? Est-ce que vous priez avant votre repas parce que c'est l'habitude que vous avez depuis que vous êtes enfant? Chez moi, on a toujours prié avant le repas, donc on prie toujours avant le repas. On prie toujours avant de se coucher, donc on prie toujours avant de se coucher. Mais est-ce que c'est ainsi qu'on voit la prière? Moi, je pense que c'est important de prier pour le repas, parce que chaque jour que Dieu fait, merci Seigneur, j'ai une assiette avec quelque chose dedans. Je pense que c'est important de prier le matin, parce que je me réveille et je me dis, merci Seigneur, tu me donnes une nouvelle journée. Le soir, je peux dire aussi, merci Seigneur, regarde la journée que j'ai passée, grâce à toi, tu m'as protégé, je suis là et je vais m'endormir en paix. Comme cet autre verset de psaume qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Tout ce qu'on va faire là sur la prière, on va le faire pas parce que la Bible nous dit « Tu dois prier 3 fois par jour. » On va le faire parce que nous avons une relation avec notre Père et que cette relation implique de la communication. Moi, je peux avoir la meilleure femme du monde si je ne lui adresse pas la parole et si je ne l'écoute pas. Alors certes, on n'aura pas de dispute. Mais quel genre de couple serons-nous? Est-ce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire? Et je pense que tout comme pour, sur la prière, on est bien exercé et on va avoir des temps de prière et on va savoir dire, là, il y a un sujet de prière, il faut qu'on prie en tant qu'Église, comme on a pu le faire à certains moments, notamment dans tout ce long parcours qu'a été l'acquisition de ces nouveaux locaux. Il y a des temps aussi où on s'est arrêté, on a dit, là, on a besoin de prier. Il y a des hommes aussi dans cette Église qui sont levés, qui ont dit, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Et est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas aussi que certains se lèvent et disent, on a peut-être besoin de jeûner ensemble. Là-dessus, je ne suis pas votre chef, Christ est le chef. Moi, ce que je voulais partager ce matin, c'est ce que l'Esprit m'avait mis à cœur, c'est ces différents passages, et c'est quelque part peut-être ce manque qu'on peut avoir dans l'Église. Et je sais que personnellement, nous, dans notre famille, on va pratiquer des temps de jeûne, que ce soit individuellement, ça peut être Christine de son côté ou moi du mien, ou ça peut être ensemble. Il y en a qu'on va pratiquer à certains moments, comme souvent pour la nouvelle année. On remet l'année qui va venir, tout comme on pourrait prier avant un repas pour remettre le repas qu'on va prendre. Mais il y a des moments aussi qui vont être complètement dépendants de notre situation, de ce que nous vivons. Il y a des moments aussi où c'est de la repentance, où bah, je me présente devant Dieu, je dis bah, là quand même, il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est des temps de partage et d'intimité avec Dieu. Et autant j'ai besoin d'en avoir seul, autant j'ai besoin d'en avoir en couple et en famille, autant on a besoin d'en avoir en Église. Alors le message que je voulais laisser ce matin, c'était ça. Ce que disait Joël dans Joël 1, pas Joël, notre Joël, mais le Joël de la Bible, qui disait « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Je pense qu'on a besoin de crier à l'Éternel. Parce qu'on est séparés physiquement, parce qu'on est dans une situation sanitaire grave, parce que pour beaucoup, du coup, ça impacte la situation matérielle, ça impacte la situation familiale, parce qu'il y a des tas de règles, etc. Mais en dehors de tout ce contexte qui nous entoure et de notre pays qui aura toujours besoin de prière, qu'il y ait des virus ou pas, dans notre situation d'église, avant d'entamer des projets d'église, avant d'entamer un nouveau chemin, avant d'entamer des nouvelles activités dans de nouveaux locaux, des nominations peut-être, ou bien des changements de personnes, ou peu importe, pour cette nouvelle année, notamment 2021, pour espérer qu'elle se passe mieux que 2020, je pense qu'on aurait besoin de prendre ces temps-là ensemble. À distance, si on n'a pas le choix, si on peut se rassembler, rassemblons-nous. Mais je pense que, comme la parole le dit, là où deux ou trois sont réunis, nous savons que Dieu est au milieu d'eux. Alors, ceux qui souhaiteraient, j'en parlais avec ma femme ce matin, on peut faire une série aussi sur le sujet, il y a peut-être besoin d'autres enseignements dessus. Moi, le but ce matin était de couvrir un petit peu ce que la Bible disait à ce sujet et ce que nous pourrions faire. Et je pense que ça peut être bien que chacun chez soi, vous puissiez relire soit ces passages, soit en relire d'autres, qu'on puisse en débattre aussi. Hein. Moi, ma boîte mail est ouverte, même si je ne réponds pas toujours dans l'immédiat, ou bien mon téléphone. Et je pense que ce soit important que nous puissions chacun déjà, individuellement, nous regarder là-dessus et nous dire, est-ce que je fais bien, est-ce que je dois changer, est-ce qu'on doit changer? Parce que l'Église, ce n'est pas une personne qui dit et 20 personnes qui suivent, mais l'Église, comme on l'a encore lu ce matin, c'est un corps. La tête, c'est Christ, et c'est un corps. Et essayer de marcher avec des pieds qui ne s'écoutent pas, vous n'allez pas aller bien loin. Essayez d'attraper un objet où tous vos doigts bougent de façon complètement aléatoire, vous n'allez rien tenir dans votre main. L'idée, c'est d'être un corps et d'agir ensemble, chacun, membre par membre, pour pouvoir accomplir quelque chose d'utile.